Dans quelques mois, la campagne présidentielle va battre son plein et nous allons entendre toutes sortes de promesses, les fameuses promesses électorales, qui, comme le disait Jacques Chirac en son temps, n'engagent que ceux qui les reçoivent. Il en est tout autrement des promesses de Dieu. Car Dieu tient toujours ses promesses. Il est le Dieu fidèle. Ses promesses sont vraies, elles sont solides. Si solides que quelqu'un a dit un jour à ce propos, on ne casse jamais les promesses de Dieu en s'appuyant sur elles. On ne casse jamais les promesses de Dieu en s'appuyant sur elles. Oui, les promesses de Dieu sont incassables et elles s'accomplissent toujours. Ce matin, nous allons voir dans notre série sur le prophète Élie comment Dieu a tenu sa promesse. Promesse faite à Élie, promesse faite à Achab et à tout le peuple. Et je vous invite à suivre dans vos Bibles ou à écouter la lecture du texte que nous allons méditer ce matin. Nous sommes dans le livre des Rois, le premier livre des Rois au chapitre 18, et je lis les versets 41 à 46. 1 Rois 18, versets 41 à 46. Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta et regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, dire à Achab, attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent se leva, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Élie se trouve sur le mont Carmel avec le roi Achab et le peuple. Il y avait aussi les prophètes de Baal et peut-être ceux d'Achéra, mais ils ont été mis à mort après que Dieu ait montré avec puissance et sans ambiguïté aucune qu'il est le seul vrai Dieu, en faisant descendre du ciel le feu sur l'offrande inondée préparée par Élie. Et c'est à ce moment-là, nous l'avons vu la dernière fois, que le peuple s'est tourné vers l'Éternel, qu'il est revenu à l'Éternel. Et au verset 39, nous lisons « Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et c'est ce retour à l'Éternel qui va permettre à Dieu d'accomplir sa promesse d'envoyer la pluie, qui va permettre à Élie d'intercéder pour la levée de la malédiction. Pour corroborer le fait que la repentance est la clé du retour de la pluie, nous pouvons nous souvenir ici de ce que Salomon disait dans sa prière, quelques chapitres auparavant, 1 Rois 8, versets 35 et 36. Voilà ce qu'il disait. « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu, célèbrent ton nom et reviennent de leurs péchés, parce que tu les auras humiliés, c'est toi qui écouteras des cieux Tu pardonneras le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël. Car tu leur enseigneras la bonne voie dans laquelle ils devront marcher, et tu feras venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Oui, c'est la repentance du peuple qui marque le moment où Dieu va pouvoir tenir sa promesse et ouvrir à nouveau les écluses du ciel. Et la promesse que Dieu va exaucer, ici, bien évidemment, c'est celle du retour de la pluie. La pluie qu'il avait promise à Achab, à la parole d'Élie, et qu'il avait promis à Élie d'accomplir alors qu'il l'envoie de Sarepta vers le roi Achab. Souvenons-nous, c'était au début du chapitre 18, verset 1, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la troisième année en ces termes, « Va te présenter devant Achab et j'enverrai la pluie sur la surface du sol. » Avant la promesse du retour de la pluie, il y avait le jugement de la sécheresse qui était lui aussi une promesse. Et c'est ainsi que pendant 3 ans et demi, dit Jacques, il n'y eut pas de pluie sur le pays. Mais maintenant que le peuple est revenu à l'Éternel, Dieu va faire revenir la pluie et il va se servir de la prière d'Élie pour cela. La prière et la pluie, c'est notre deuxième point. Avant de se mettre à l'écart pour prier, Élie invite Achab à monter pour manger et boire, dit le texte au verset 41. À l'évidence, Achab se trouvait quelque part en dessous de là où se trouvait Élie. Et nous comprenons, c'est une des lectures possibles au travers de cette invitation, qu'Achab n'avait certainement rien mangé depuis le matin. Il est temps pour lui de se restaurer. Et je trouve ici l'attitude d'Élie remarquable. On ne peut pas dire qu'Achab portait Élie sur son cœur. Et il aurait été facile pour Élie de nourrir du ressentiment vis-à-vis du roi. Mais c'est tout le contraire que nous voyons. Et ce que nous discernons au travers de ces quelques paroles, c'est la bienveillance d'Élie pour le roi. Une bienveillance qui nous rappelle que Dieu n'attend pas seulement que nous aimions ceux qui nous aiment, mais que nous aimions même ceux qui nous font du mal, comme ce fut le cas d'Achab envers Élie. Quand Élie invite Achab à monter pour se restaurer, il précise qu'il entend le grondement de la pluie. Pourtant, le texte va montrer, dans la suite, qu'il n'y a pas encore un seul nuage à l'horizon. Alors, qu'a donc entendu Élie ? J'ai tendance à penser que ce qu'il a entendu, il a entendu avec les oreilles de la foi. On pourrait bien sûr imaginer qu'il a entendu le tonnerre gronder au loin. On peut peut-être aussi imaginer que ce qu'il a entendu, il l'a entendu avec les oreilles de la foi. Élie sait que la pluie arrive, non pas parce que le tonnerre gronde au loin, mais parce qu'il sait que Dieu tient ses promesses, parce qu'il sait que le moment est venu. Oui, la pluie arrive. Achab doit maintenant manger rapidement, parce que quand la pluie arrivera, il faudra se dépêcher de rentrer. Pendant qu'Achab se restaure, Élie monte jusqu'au sommet du Carmel pour prier. Et je relis les versets 42 à 45. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, dira Achab, attelle et redescends afin que la pluie ne t'arrête pas. » De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent se leva, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jizréel. Dieu va exaucer la prière d'Élie. Plus précisément, il va se servir de la prière d'Élie pour accomplir sa volonté et tenir sa promesse. J'aimerais faire rapidement quelques remarques, trois remarques au sujet de la prière d'Élie. Et la première chose que j'aimerais souligner, c'est son humilité. Une humilité traduite ici par la position qu'il prend pour prier. Une position qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible à ma connaissance. En effet, Élie s'agenouille. Ça, c'est fréquent. Mais il met ensuite, dit le texte, son visage entre les genoux. Est-ce que ça signifie quelque chose ? J'ai lu pas mal de choses sur le sujet, mais elles ne m'ont pas vraiment convaincu. Ce que je retiens ici, c'est l'abaissement d'Élie. C'est son humilité devant Dieu. Et il faut nous souvenir qu'Élie vient juste de remporter une grande victoire. Et il aurait pu avoir les chevilles qui enflent. Choper le melon, comme on dit familièrement. Attraper la grosse tête spirituelle et adopter une toute autre attitude devant Dieu. Rien de tout cela. Élie reste conscient de la grandeur de Dieu. Il reste conscient de sa position de créature. Il reste conscient de sa petitesse. L'humilité, la vraie, celle qui vient du cœur, celle qui n'est pas façade, celle qui ne se traduit pas forcément par des gestes d'abaissement, est toujours l'attitude qui convient le mieux devant Dieu et dans la prière. La deuxième remarque concerne le fait qu'Élie s'attend à l'exaucement de sa prière. Et j'en veux pour preuve qu'il envoie au verset 43 son jeune serviteur pour aller voir ce qui se passe du côté de la mer, et il le fait à sept reprises. Si la pluie doit venir, c'est de là qu'elle viendra. Quand la pluie va venir, c'est de là qu'elle viendra. Élie prie de manière intentionnelle. Il prie avec l'attente de l'exaucement de Dieu. C'est une évidence, me direz-vous. À quoi bon prier si je ne crois pas que Dieu va répondre, que Dieu va exaucer ma prière? En fait, vous le savez comme moi, on peut prier pour toutes sortes de raisons. On peut prier par routine, par habitude. On peut prier par devoir. On peut prier par contrainte. On peut prier pour se rassurer. Il est facile de prier sans y croire vraiment. J'ai lu les chiffres d'une enquête menée aux États-Unis dans les années 90, ça date un peu, mais qui révélait que 85% des personnes qui disaient prier régulièrement ne s'attendaient pas à ce que leur prière soit exaucée. Alors vous allez me dire, c'est les États-Unis, oui, c'est vrai, et il y a forcément des nuances à mettre dans la transposition entre leur réalité culturelle, cultuelle et la nôtre. C'est vrai. Mais le cœur humain, lui, me semble-t-il, est quand même à peu près le même partout sur la surface de la Terre. Et en fait, je pense que nous l'avons tous expérimenté, il est facile de prier sans croire que Dieu va exaucer ma prière, sans m'attendre à ce que Dieu exauce ma prière. Je ne dis pas que parce que je crois, ça va forcément se réaliser. Je parle d'un état d'esprit. Et justement, c'est ce que je voudrais préciser. S'il faut prier avec foi, parce que c'est de cela dont nous parlons, en m'attendant à ce que Dieu exauce ma prière, il faut cependant toujours le faire dans la soumission à la volonté de Dieu, comme nous le comprenons dans la prière de Jésus à Gethsémané, qui disait à son Père, après avoir demandé s'il était possible que cette coupe qu'il s'apprêtait à boire s'éloigne de lui, « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que Dieu exauce nos prières? Qu'est-ce qui fait que Dieu exauce ma prière? Est-ce que c'est ma foi qui est le facteur déterminant? Est-ce que c'est le fait d'avoir suffisamment de foi qui fait que Dieu va exaucer ma prière? La foi est bien évidemment importante. L'Écriture parle de la prière de la foi. Mais je crois que ce qui est déterminant par-dessus tout, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons faire attention à ne pas avoir foi en la foi, mais à avoir foi dans le Dieu qui sait ce qui est le meilleur pour moi. Parce que quand je prie et que je fais des demandes à Dieu, je ne sais pas toujours ce qui est le meilleur pour moi. La troisième remarque concerne la persévérance d'Élie. Élie qui envoie son serviteur à 7 reprises du côté de la mer. Il fallait vraiment qu'il s'attende à la réalisation de la promesse de Dieu. Il aurait été facile pour Élie de s'arrêter après la première, la deuxième, la troisième. Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour demain. S'arrêter après la quatrième, la cinquième, la sixième, 7 fois. Il aurait été tellement facile pour lui de jeter l'éponge. Mais Élie a persévéré jusqu'à l'exaucement de sa prière. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas exaucé Élie à la première demande? Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas mes prières dès la première demande? Bon, parfois il le fait, mais pas systématiquement. Et nous devons rappeler ici tout d'abord que Dieu a ses raisons, que je ne connais pas forcément. Ses voix ne sont pas mes voix, ne sont pas nos voix. Nous devons rappeler aussi que Dieu n'est pas le distributeur automatique de tous nos désirs. Dieu ne nous doit rien. Mais quand je dis que Dieu ne nous doit rien, c'est rien. Dieu ne nous doit rien. Et tout ce qu'il nous donne, il nous le donne par pure grâce. Et ce que Dieu désire, c'est que nous grandissions en lui, que nous grandissions dans notre relation à lui, que nous grandissions dans notre confiance en lui et dans notre fidélité pour lui. Et la patience et la persévérance dans les épreuves et dans la prière vont accomplir cela en nous. Et à ce sujet, l'apôtre Paul écrira bien plus tard dans son épître aux Romains au chapitre 5, versets 3 et verset 4, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. » Après 7 tentatives, 7 allers-retours pour aller voir du côté de la mer, le serviteur revient en disant qu'il voit maintenant un tout petit nuage, pas plus grand que la pomme de la main d'un homme. C'est au verset 44. La pluie, enfin, Élie le sait. Il sait ce que ça signifie. Il a prié pour cela. Et il envoie son serviteur dire à Akab de partir rapidement afin que la pluie ne l'arrête pas. Afin que la pluie qui arrive ne l'arrête pas. Et ici, à nouveau, j'aimerais souligner la bienveillance d'Élie pour Akab, qui jusqu'ici lui a manifesté tout sauf de la bienveillance. Le petit nuage devient rapidement grand, le ciel devient noir de nuages, le vent se lève et une forte pluie se met à tomber. Dieu a tenu sa promesse. Akab a pris son char, dit le texte, et il est parti en direction de Jizréel. Jizréel, c'est dans la plaine, un peu plus bas, à environ 25 km du mont Carmel. Là, Akab possède une résidence. Nous en reparlerons au chapitre 21. Akab est parti, le chemin est long, et le texte nous dit qu'Élie a rattrapé Akab et s'est mis à courir devant le char d'Akab. Il est possible que le char d'Akab n'ait pas avancé très vite à cause de la forte pluie et de la boue qui a dû rapidement se former. Toujours est-il que cette course est miraculeuse. Le texte nous le fait comprendre puisqu'il nous dit que Dieu mit sa main sur Élie. Si ça avait été les Jeux olympiques, il aurait remporté la médaille d'or, certainement ce jour-là. Une dernière remarque, certains voient ici dans cette mention que Élie courut devant Akab, une manière pour Élie de dire au roi qu'il était à son service, ce qui confirmerait la bienveillance d'Élie pour Akab. Voilà pour les explications du texte et j'aimerais maintenant terminer avec un troisième et dernier point, en revenant sur le fait que Dieu tient toujours ses promesses. Et je pense que nous sommes beaucoup ici ce matin à le penser et à le croire. La Bible regorge de promesses. La Bible regorge de promesses, mais je vais peut-être vous surprendre en affirmant qu'elles ne sont pas toutes pour vous et pour moi. Dans notre interprétation de la Bible et des promesses de Dieu en particulier, il est important que nous déterminions à qui les promesses sont adressées. La Bible n'est pas un livre de recettes ou de formules magiques qu'il suffit d'extraire et d'appliquer à notre situation. Dieu a choisi de se révéler dans l'histoire des hommes et dans celle d'un peuple en particulier, le peuple d'Israël. Et dans la narration de cette révélation, il y a des choses qui ne nous concernent pas directement. Ça ne veut pas dire que ces choses n'ont rien à nous apprendre. Ça veut simplement dire que certaines promesses ne nous sont pas adressées. Et c'est ainsi qu'il est essentiel dans ce sujet des promesses de Dieu de déterminer si la promesse que je lis est circonstancielle ou universelle. Si la promesse a été faite à une personne ou à un groupe de personnes dans une situation bien précise, elle n'est pas pour moi. Elle n'a pas été donnée pour moi. Elle s'applique à cette seule situation, à un moment donné, pour des plans précis que le Seigneur a établis à ce moment-là. Je vais pouvoir en ressortir des applications pour ma vie, mais ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse, et je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu l'accomplisse dans ma vie. Je vais prendre un exemple simple, il y en aurait beaucoup, simple et évident, pour qu'on comprenne bien. C'est l'exemple de Dieu qui dit à Josué de prendre la ville de Jéricho et qui lui promet que quand le peuple aura tourné sept fois autour de la muraille et au son du cor, etc., que les murailles s'effondreront et qu'ils pourront prendre la ville. Et nous comprenons assez facilement que cette promesse est circonstanciée et elle ne peut pas être pour nous. Il y a des leçons à en tirer. Mais si je fais 7 fois le tour d'une ville, Dieu ne va pas abattre les murs de cette ville pour cette raison-là, ni physiquement, ni spirituellement d'ailleurs. Parce que peut-être que vous avez entendu cette pratique de tourner autour des villes pour faire tomber les murailles spirituelles de la ville. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure lecture de ce texte de Josué. Aucun commandant militaire ne peut s'appuyer sur cette parole pour prétendre prendre une ville. Et il y a beaucoup de promesses de ce type dans la Bible, et nous devons nous garder de les prendre pour nous. Alors, s'il y a ce type de promesses qu'on pourrait appeler circonstancielles, il y a aussi les promesses qu'on va appeler universelles. Et ces promesses-là sont aussi pour nous. Je vais vous donner 2 exemples rapidement. Elles sont explicites, je ne vais pas beaucoup m'étendre. Premier exemple, psaume 103, versets 11 à 13. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Si j'ai la crainte de Dieu en moi, alors Dieu me promet qu'il aura compassion de moi, comme un père a compassion de ses fils. C'est pour moi, si j'ai la crainte de Dieu en moi. » 2 exemple, Romains chapitre 10, versets 11 et 13. « Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si j'invoque le nom du Seigneur, Dieu me promet que je serai sauvé. » Cette promesse, elle est pour moi. Elle est pour quiconque invoque le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis, ces promesses, comme toutes les promesses universelles de la Bible, sont aussi pour nous et nous pouvons avec confiance nous attendre à ce que Dieu les accomplisse dans notre propre vie. Oui, Dieu tient ses promesses. Mais nous devons nous assurer de bien comprendre celles qui nous sont adressées. Et puis, s'il faut faire la distinction entre les promesses circonstancielles et universelles, il faut aussi faire la distinction entre les promesses conditionnelles et inconditionnelles. En effet, parmi les promesses universelles de la Bible, il y a des promesses conditionnelles et des promesses inconditionnelles. Dans le registre des promesses inconditionnelles, j'avais que l'embarras du choix, psaume 119, verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans condition aucune, la Bible est toujours une lumière sur mon sentier. Je peux ne pas en tenir compte, bien évidemment. C'est ma liberté, c'est la liberté que Dieu m'accorde. Je peux ne pas en tenir compte, mais que j'en tienne compte ou pas, ça ne change rien au fait que la Bible est une lumière sur mon sentier. Et puis, dans le registre des promesses conditionnelles, cette fois-ci, voilà, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice ou de toute iniquité. Ici, la promesse de Dieu concerne le pardon, mais il y a une condition, la condition de la repentance. La promesse du pardon est conditionnée à ma repentance. Mais si je me repens, alors je sais que Dieu m'accordera son pardon. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu tient toujours ses promesses, comme nous l'avons vu dans notre passage ce matin. Mais il nous appartient de déterminer, pour éviter bien des impasses, si elles me concernent ou pas, et s'il y a une condition ou pas. Et je le redis, la Bible n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas un grimoire avec des formules qu'il suffirait de dire, qu'il suffirait d'appliquer, qu'il suffirait de croire. Non. La Bible, la parole de Dieu doit être lue intelligemment et elle doit être interprétée avec soin et sagesse. Toute la Bible est pour chacun de nous, toute la Bible, mais toutes les promesses de Dieu ne nous sont pas adressées. Et c'est la raison pour laquelle nous devons apprendre sans cesse à être des lecteurs attentifs de la Bible, des lecteurs attentifs qui ne tordent pas le sens des Écritures, mais qui se saisissent des nombreuses promesses que Dieu a dites et qui nous concernent aussi. Puisse le Seigneur accomplir cela par son Esprit en nous aidant chacun. Amen.